France Inter.
Bienvenue dans Autant n'emporte l'histoire. Aujourd'hui, 1429, Jeanne d'Arc, chef de guerre. De Jeanne d'Arc, personnage mythique de l'histoire de France, on connaît ou croit connaître à peu près tout. La jeune et pieuse paysanne de Don Rémy, qui en pleine guerre de Cent Ans, entend des voix l'appelant à bouter les Anglais hors de France. Qui en 1429 réussit à convaincre le roi Charles VII de reprendre le combat et de se faire sacrer à Reims. Mais capturée par les Anglo-Bourguignons, elle sera condamnée à mort et brûlée vive à Rouen en 1431. Une épopée très brève, mais qui plus de 600 ans après ne cesse de nous fasciner et de nous interroger. Comment cette jeune fille destinée à se marier, faire des enfants et cultiver la terre, s'est-elle métamorphosée en véritable chef de guerre ? Pour libérer Orléans assiégé par les Anglais, Jeanne d'Arc monte à l'assaut à cheval, avec son armure et son épée, galvanise ses troupes et terrifie les Anglais qui décampent en courant. Pucelle et sainte pour les uns, cette femme habillée en homme ne peut être pour les autres que sorcière et putain ribaude.
France Inter, Stéphanie Duncan, autant en emporte l'histoire.
Valérie Toureille, je suis ravie de vous recevoir dans Autant n'emporte l'histoire. Vous êtes historienne, professeure à l'université Cergy-Paris, spécialiste du Moyen-Âge et l'autrice en 2020 d'une biographie sur Jeanne d'Arc. Alors vous écrivez dans votre introduction que c'est en travaillant sur les compagnons d'armes de Jeanne d'Arc que vous êtes arrivée à Jeanne d'Arc elle-même. Ce qui est assez fascinant, c'est de voir en effet comment ces hommes de guerre expérimentés, ils s'appelaient Lahire, Xaintrailles, Jean d'Alençon, des courageux, mais un peu bruts aussi. Au départ, ils étaient réticents et finalement, ils vont accepter Jeanne d'Arc, l'admirer et ils vont devenir pour la plupart de vrais compagnons d'armes.
Il y a une part de mystère dans cette adhésion. Il y a des éléments qui nous permettent de comprendre comment ces rudes hommes de guerre ont finalement suivi Jeanne, pas accepté de la suivre, mais vraiment de l'accompagner et de l'entourer. Parce qu'elle incarne une certaine légitimité, celle qu'elle va redonner aux armées du Dauphin.
Elle se bat quand même pour l'imposer, cette légitimité.
C'est vrai. En fait, le contraire eût été étonnant. Une jeune femme du peuple s'imposer dans un milieu qui lui est foncièrement hostile doit nécessairement rencontrer des obstacles. Ça fait aussi un peu partie du parcours de la sainte, mais c'est aussi assez objectif.
Alors, l'histoire que je vais raconter dans quelques minutes commence le 29 avril 1429, quand Jeanne d'Arc est missionnée par le roi, le jeune Charles VII, pour se rendre à Orléans, assiégé par les Anglais. Alors, Valérie Toureille, pouvez-vous nous rappeler quelle est la situation de la France en cette année 1429, donc, cette fameuse guerre de Cent Ans qui dure ?
La situation est des plus dramatiques. La France connaît sans doute l'une des crises politiques les plus profondes de son histoire. Et il faut remonter quelques années auparavant pour comprendre que le royaume est gouverné par un roi fou. Charles VI a ses premiers accès de folie en 1392.
Donc c'est le père de Charles VII.
Le père de Charles VII. Que du côté anglais, il y a aussi un bouleversement politique majeur. Richard II est écarté du trône et voit arriver sur les marches du pouvoir un parti foncièrement hostile à la France qui veut porter le feu sur le continent. Henri IV et Henri V, son fils, le vainqueur de la terrible défaite d'Azincourt en 1415.
Défaite française.
Ouais. Il faut encore ajouter à ce climat de guerre extrêmement délétère une guerre civile qui est née dans l'environnement de ce roi fou où les deux grands partis politiques se disputent les rênes du pouvoir. Pour faire simple, d'un côté les Armagnacs, de l'autre les Bourguignons. Et puis il y a encore un autre élément essentiel, c'est qu'en 1420, le roi fou dont les actes sont de plus en plus dictés par le duc de Bourgogne, le nouveau duc de Bourgogne, puisqu'entre-temps, il y a eu un autre assassinat. Je simplifie au maximum difficultés chronologiques de cette période. En 1419, le duc de Bourgogne a été assassiné, et son fils, pour tirer vengeance, va aider à la signature de ce traité de Troyes qui va donner la légitimité de la couronne de France à Henri V, le vainqueur d'un
Donc il y a un royaume avec deux rois, Charles VII d'un côté et Henri V de l'autre. Et Jeanne d'Arc, alors d'où vient-elle ? Elle est née en 1412, on suppose, à Don Rémy, donc en Lorraine.
Oui, donc on est dans la vallée de la Meuse. C'est un axe qui est extrêmement fréquenté, pas seulement par les marchands, mais aussi par les armées. En fait, si on reprend la chronologie de son enfance, on peut presque suivre année par année cette guerre qui devient plus menaçante autour du village et qui, au fond, donnera cette coloration si particulière à sa mission.
Donc elle va entendre ces fameuses voix, c'est un peu compliqué, on y reviendra dans une autre émission, des voix qui lui disent qu'elle doit sauver la France, bouter les Anglais hors de France. Elle réussit en 1428 à convaincre Robert de Vaudricourt de lui donner une escorte pour se rendre à Chinon, où elle arrive donc en février 1429, et elle va convaincre le jeune roi, elle est incroyable, elle réussit à le convaincre de lui donner une escorte et d'aller à Orléans comme elle le souhaite.
En fait, les étapes sont compliquées et tout cela va prendre un petit peu de temps et c'est assez naturel. D'abord parce qu'il faut rappeler qu'il y a une double offensive en 1428, pas seulement sur Orléans, mais aussi sur Vaucouleurs. Et Baudricourt, menacé sur ses terres, a bien d'autres chats à fouetter que d'écouter cette jeune paysanne. Mais la rumeur croît autour de Jeanne et ses voix. Il faut bien voir que dans cet espace oriental du royaume, il y a des partisans du dauphin qui vont être des relais aussi de cette rumeur. Parce qu'il y a un autre élément dans cette histoire qu'on oublie souvent, c'est que des gens du peuple sont aussi entrés en résistance face à cette situation d'occupation des armées anglaises.
Et donc, Jeanne d'Arc va se faire un peu l'héroïne
de
ces gens-là.
Voilà. Tout à fait.
Donc, méfiant d'abord, le roi, le jeune Charles VII, finit par l'envoyer à Orléans, non pas pour combattre, on va le voir, mais pour livrer du ravitaillement aux Orléanais assiégés. Valérie Toureille, on se retrouve dans une trentaine de minutes pour poursuivre cette discussion. Tout de suite, 1429, Jeanne d'Arc, chef de guerre, un texte de Christine Spianti, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire, réalisation Sophie Picon.
On m'a trompé. J'ai cru qu'on passerait la Loire ici, mais le pont est écroulé. Comment rejoindre Orléans, qui est sur l'autre rive ? La ville est inaccessible, si ce n'est par bateau. Mais où sont les bateaux ? Nous avons 500 chariots de blé et de bétail à faire traverser, et des milliers de soldats. Que de temps perdu ! Moi qui n'ai de deux jours retiré mon armure, prête à combattre l'ennemi aujourd'hui même. J'ai été trompée. Mais qui a cru me tromper ? C'est lui qui se trompe.
29 avril 1429, à 8h du soir. Jeanne d'Arc arrive de Blois à cheval. À la tête d'une petite compagnie d'hommes d'armes que Charles VII lui a donnée, elle escorte un convoi placé sous le commandement du capitaine Gilles de Rais et du maréchal de Brosse. Charles VII a décidé de dépêcher des vivres et un renfort militaire de 2500 soldats à la ville d'Orléans. Encerclée par les Anglais depuis 7 mois, la ville est en danger. Défendre Orléans a une importance stratégique primordiale. Si les Anglais s'en emparaient, il s'ouvrirait la voie pour conquérir ce qui reste du royaume de Charles VII. Dunois, le gouverneur d'Orléans, accompagné de son lieutenant, Lahire, a accosté en bateau. Jeanne, dans son armure flambant neuve, éprunne son cheval blanc pour se porter à la rencontre des deux cavaliers.
Vous êtes Jean de Dunois, le bâtard du duc d'Orléans ?
Je le suis, et je me réjouis de votre arrivée.
Pouvez-vous m'expliquer ce que je fais ici ? Est-ce vous qui avez donné ordre de me mener de ce côté du fleuve et non tout droit à Orléans ? C'est ce que vous avez fait ?
Oui, les Anglais coupent la route de Blois, c'est ce qu'il y avait de mieux à faire. Et c'est le conseil que j'ai donné au capitaine du convoi.
Le conseil de notre Seigneur est plus sûr que le vôtre. Je vous apporte le secours de Dieu.
Et il est bienvenu. C'est donc vous, cette Jeanne, venue de Lorraine, missionnée par Dieu lui-même. Je suis peu porté sur les miracles et prophétesses. Permettez-moi de vous présenter mon lieutenant, Étienne de Vignolles.
Tous les soldats m'appellent Laïa.
Dunois, je suis venu ici avec ordre du Seigneur pour attaquer les Anglais. Mes hommes se sont confessés, ils ont prié, ils sont prêts au combat.
Mais que sais-tu de la guerre, Jeanne la Pucelle ? Je peux pas y croire. Une donzelle prétend libérer la France en faisant ce que les meilleurs chevaliers n'ont pas réussi à faire.
Oui, oui, Laïr, nous savons. Mais le roi en a décidé ainsi.
Et pendant que nous parlementons, la garnison anglaise nous a certainement déjà repérés. S'ils s'emparaient du convoi, vous n'avez pas prévu de bateaux pour nous faire traverser ?
Je suis navré, les bateaux qui devaient venir vous chercher ne peuvent traverser. Le vent est trop fort. Le convoi va devoir retourner à Blois et passer la Loire là-bas.
Retourner à Blois ? Mais cela prendra 2 ou 3 jours et repoussera le combat d'autant.
Je le sais, malheureusement. Mais si vous le voulez, permettez-moi de vous accueillir dans mon bateau. Vous serez dès ce soir à Orléans.
Non. Pas sans les hommes d'armes que le roi m'a confiés. Je ne veux pas m'en séparer.
Pourtant, ils devront retourner à Blois avec le convoi. Voulez-vous bien me suivre ? Jeanne, dans la ville d'Orléans, on vous désire extrêmement.
Ah, les habitants savent que je suis là, ils m'attendent, dites-vous. Bien sûr. Bon, je vous suis. Combien de soldats dans la cité ?
À peine 500. Mais les habitants aussi sont armés.
Eh bien, cela suffira pour tenter quelques escarmouches et inquiéter les Anglais. Embarquons sans perdre de temps.
Tandis que le convoi fait demi-tour pour retourner à Blois, Dunois, Laïr et Jeanne d'Arc gagnent Orléans par bateau. En 7 mois de siège, les Anglais ont isolé la ville. Ils ont démoli le pont qui reliait les 2 rives de la Loire et barrent les routes vers Paris et Blois. Cependant, ils ne sont pas assez nombreux pour encercler la ville fortifiée et ne contrôlent que les portes situées à l'ouest et au nord. La nuit venue, Jeanne, le gouverneur Dunois et Laïr entrent sans encombre par la porte est. Dans les rues, les habitants sont sur le pied de guerre et attendent impatiemment le convoi de ravitaillement. Jeanne passe la nuit sans trouver le sommeil. Le lendemain, 30 avril, elle se rend au palais du gouverneur.
Déjà l'aurore. Aujourd'hui, nous serons au combat. Hier soir, les habitants étaient là dans les rues, éclairant de leurs torches mon cheval. Leur visage était si triste. Le peuple subit impitoyablement la guerre. Mais je viens de la part du roi du ciel pour lever le siège d'Orléans. Je vais rallumer l'espérance du peuple et lui donner une paix durable. C'est ma mission. Il y va du salut de mon âme. Il y va du destin du royaume.
C'est vous, Jeanne ? Il est encore bientôt.
Vous n'êtes pas prêt pour le combat ? Nous avions convenu hier de tenter quelque chose avec vos hommes et les habitants, non ?
Oui, mais ensuite, j'ai tenu conseil et décidé de ne rien faire.
Pourquoi retarder l'affrontement ? On pourrait cibler un poste de garde, un peu isolé. Montrez-moi la carte.
Écoutez, cela fait des mois que nous résistons. La garnison est épuisée, les habitants ont faim. S'ils allaient ouvrir les portes de la ville aux Anglais pour en finir, tout serait perdu. Non, il faut patienter. Jusqu'à l'arrivée des renforts.
Mais on ne peut pas attendre sans rien faire. Avez-vous déjà demandé aux Anglais de lever le siège ?
Non. Que voulez-vous faire ?
Les sommets de déguerpir.
Qu'ils se rendent, sur injonction de Jeanne la Pucelle. Il vaut mieux attendre les secours.
Vous ne comprenez rien, Dunois. Vous n'aurez de secours que de moi.
Jeanne traverse la ville à cheval et se poste sur ce qui reste du pont sur la Loire. Là, les Anglais sont à portée de voix. Seules les 3 arches démolies les séparent.
Lansdale ! Tu commandes le siège, alors écoute-moi. Rends-toi ! Et vous, archers, compagnons de guerre, gentilshommes, allez-vous-en ! Rentrez chez vous, de par Dieu ! Sinon, vous aurez des nouvelles de la Pucelle ! Je suis ici, envoyé par Dieu, le roi du ciel, et je suis chef de guerre. En quelques lieux que je trouverai des Anglais en France, je les combattrai et les chasserai, et s'ils ne veulent obéir, je les ferai tous tuer. Au nom de Dieu, retirez-vous !
Les sommations de Jeanne, qu'elle envoie également par lettre le soir même, restent sans effet. 3 jours plus tard, au matin du 4 mai, le convoi arrive enfin. Les Anglais le laissent passer. Blé, bœufs, vaches, moutons, pourceaux sont distribués aux Orléanais. 2500 soldats, dont des mercenaires italiens, espagnols et écossais, viennent renforcer les troupes déjà présentes dans l'enceinte de la ville. Jeanne retrouve sa compagnie de soldats, et parmi eux, Pierre,
son frère cadet, qui l'a suivi depuis Don Rémy. Pour tenir le siège, les Anglais ont construit à l'ouest et au nord des remparts de la ville une dizaine de bastides. Ce sont des postes de garde en bois, protégés par des fortifications de pierre. Ce 6 mai 1429, vers midi, Jeanne se rend à l'écurie.
Mon cheval est nerveux et s'impatiente. Mes sommations n'ont rien donné. J'ai même entendu Glansdal crier « Putain des Armagnacs » et qu'ils me feront brûler. Que leur âme est laide, j'en ai pleuré. Les renforts sont arrivés, mais Dunois tergiverse. Il faut engager la bataille, prendre bastide après bastide. J'ai beau dire, mon avis ne vaut rien. Si le roi perd Orléans, son royaume est aux Anglais. Par Dieu, je vais les frapper. Je ferai un tel tohu-bohu qu'ils s'en souviendront et je les pourchasserai jusqu'à ce qu'ils fuient de l'autre côté de la mer.
Ah, je pensais bien te trouver là, Jeannette. Tu es déçue ? Mais Dunois ne veut rien savoir. On doit rester à l'intérieur des remparts.
Lahir, vous sellez votre cheval ? Où allez-vous ?
Je viens d'apprendre qu'un capitaine a organisé l'attaque d'une bastide avec quelques soldats. Je vais leur prêter main forte.
Mais c'est contraire à ce que Dunois a commandé.
Je vous suis, Lahir. Pierrot, va rassembler mes hommes. Fais ce que je te dis. Ma compagnie est prête pour le combat.
Mais qu'est-ce que vous savez du combat ? Vous n'avez jamais fait la guerre et vous allez mener les soldats et guider votre cheval en gardant la lance au poing. Restez ici.
Plus vous aurez d'hommes, plus vous serez fort, non ? Partons. Dieu me garde, Lahir. C'est lui qui m'a envoyé ici.
La guerre, c'est l'affaire des hommes. J'ai brûlé 18 villages en Aveyron. J'ai attaqué Châlons, traversé le royaume d'est en ouest. J'ai pris Le Mans, Crépy-en-Valois, le Crotoy, de mes mains. De mes mains seules.
Confiance, Lahir. Il plaît à Dieu d'être avec nous.
Bon. Si vous y tenez. Mais il vaut mieux que je fasse ma prière. Sire Dieu, je te prie de faire pour Lahir ce que Lahir ferait pour toi s'il était Dieu et que tu fusses Lahir.
Pendant ce temps, à la Bastide Saint-Loup, les Anglais ont le dessus. Jeanne et Lahir contournent le bâtiment et attaquent à revers. Les Anglais, assaillis de tous côtés, se replient. La Bastide est prise. C'est la première expédition militaire de Jeanne d'Arc. Cette victoire galvanise les capitaines qui, dans la foulée, reprennent deux autres bastides. Ce soir du 6 mai, avant de réunir son conseil, Dunois fait venir Lahir. Jeanne est là aussi. Elle a gagné sa place de chef de guerre.
La Bastide Saint-Loup, la Bastide Saint-Jean, la Bastide des Augustins, que de victoires inespérées. N'allons pas plus avant. Il ne faut pas tenter le sort.
Il faut pousser l'avantage, au contraire. L'ennemi est affaibli.
Écoute-la, Dunois. C'est le moment où jamais. Les Anglais ont envoyé un capitaine chercher du renfort à Janville.
Nous devons agir vite. Attaquer les tourelles.
Les tourelles ? Mais tous les Anglais des bastides que nous avons prises s'y sont regroupés. C'est bien trop risqué. Mais Lahir, dis quelque chose.
Elle a raison. Enfin, Dunois. Il n'y a que trois bastides de ce côté. Et nous en avons déjà pris deux. Les tourelles sont isolées. Nos canons les ont bombardées. On a abattu un pan de mur entier. Y a pas à hésiter.
Vous semblez sûr de votre fait. Alors j'accepte.
Agissons et Dieu agira. Nous prendrons les tourelles. Dunois, demain levez-vous de bon matin, plus tôt que vous ne l'avez jamais fait. Nous attaquerons au lever du jour.
Le lendemain à 6 heures du matin, 2000 guerriers sortent d'Orléans sous le commandement de Dunois et de Lahir. Jeanne d'Arc chevauche en tête de sa compagnie. La Bastide des Tourelles défend le pont sur la Loire, le plus grand et le plus large de l'époque. Rouvrir le pont permettrait de rétablir le passage entre les deux rives. C'est une prise stratégique capitale. Très vite, l'assaut est donné. Mais toute la journée, les Anglais résistent et les troupes d'Orléans subissent beaucoup de pertes. À 8 heures du soir, la bataille semble perdue. Jeanne est blessée. Son frère la porte dans un bois à l'écart de la bataille, près des murs de la ville.
Le sang de nos gens coule. Au nom de Dieu, cette nuit, où la ville est reprise, où je n'en reviendrai pas. J'ai peur.
Ne bouge pas, Jeannette. Avec cette flèche dans l'épaule, ça saigne. Il faudrait de l'huile d'olive et un morceau de lard à mettre sur la plaie. Replions-nous en ville.
Non, non. Je reste. Un bandage suffira. Aide-moi. Maintenant, retourne voir. Approche-toi de la Bastide et dis-moi où en sont les Anglais. Va, Pierre. Va.
Vous êtes blessé ?
Mauvais présage. Et la nuit commence à tomber. Je vais commander de se retirer.
Non ! Gardez courage ! Ne vous retirez pas ! Donnez aux soldats de quoi boire et manger, qu'ils se reposent un peu et nous repartirons au combat.
Non, vous nous mettrez en grand péril. Les capitaines ne veulent plus engager le fer.
Dieu conduit cette affaire, Dunois. Si je n'en étais pas sûr, je préférerais garder les brebis plutôt que de nous exposer.
Dunois a raison, Jeanne. Arrêtons-la. Il n'y a guère espoir de victoire aujourd'hui.
Qu'on retire l'artillerie ! Qu'on sonne la trompette de la retraite !
Non, au nom de Dieu, nous les vaincrons, n'ayez doute. Je promets que nous aurons cette Bastide aujourd'hui.
Jeannette ! Glorsdale est tombée dans le fleuve. Dieu est avec toi.
Pierrot, aide-moi à me hisser sur mon cheval.
Que va-t-elle faire, Laïr ? Elle se campe sur le rebord du fossé. Brandit son étendard.
Glorsdale ! Avant-hier, tu m'as appelé putain. Moi, j'ai grand pitié de ton âme. À mon étendard, notre seigneur a condamné les Anglais. Ami, ayez bon courage.
Rien ne l'arrête. Dieu la protège. Je retourne au combat.
La Bastide est prise. Les Anglais ont subi de grosses pertes. Jeanne demande à tous ses hommes de se confesser. Le lendemain matin, les Anglais se rangent en ordre de bataille. Suivis de l'armée, Laïr, Dunois et Jeanne s'avancent à cheval et s'arrêtent face à eux. Tous attendent le combat final. Après plusieurs heures de face-à-face, les Anglais brusquement se retirent et font mouvement vers la route de Beaugency. Le siège d'Orléans aura été levé en 9 jours et 10 nuits. Le 9 mai 1429, Jeanne d'Arc, auréolée de triomphe, retrouve le roi au château de Loches en Touraine.
La voix m'avait dit que je lèverais le siège de la cité d'Orléans. Dieu l'a fait. C'était ma première mission. À présent, je dois conduire le roi à Reims pour son couronnement et sa consécration. Mais comment convaincre le roi ? Il est si mal conseillé. Il doit pourtant faire ce que Dieu me dit.
Depuis notre rencontre à Chinon, que de choses se sont passées en si peu de mois, Jeanne. Ce que tu m'as révélé à Chinon, que le roi des cieux te voulait pour libérer Orléans, s'est accompli.
Gentil dauphin, Dieu l'avait commandé, mais c'est la vaillance des hommes qui a repris Orléans.
En effet, Dunois dit que tu t'y entends pour placer l'artillerie, les bombardes et les pierriers. Et que tu manies la lance et fais merveille avec cette grande épée que tu as au côté.
Oui, c'est une bonne épée de guerre qui donne de bonnes buffes, bons coups et bons torchons.
Dunois dit aussi que ce que tu fais dans la guerre est plutôt de Dieu que des hommes.
Gentil dauphin, j'ai seulement exécuté le plaisir de Dieu à Orléans. Maintenant, il dit que vous devez recevoir votre sacre.
J'y ai réfléchi. Ce serait une grande victoire morale sur les Anglais. Ils ne peuvent prétendre faire sacrer leur roi. Henri VI n'a que 8 ans. Mais les rois de France sont sacrés à Saint-Denis. Et la ville est tenue par les Anglais et les Bourguignons. Comment comptes-tu faire ?
Dieu me demande de vous mener en la cathédrale de Reims.
Reims ? Exposer mon armée à traverser les terres des Bourguignons ? Non, non. Pour le moment, le sacre est impossible. Mes conseillers me disent de marcher sur la Normandie pour occuper les côtes et couper les Anglais de leurs arrières.
Gentil dauphin, je vous parle de recevoir le sacre et montrer que vous êtes le roi choisi par Dieu auquel le royaume doit appartenir. Le pouvoir des hommes n'émane que de Dieu. Vous devez par le sacre donner votre royaume au roi des cieux et promettre de le servir pour faire le bonheur du peuple. Alors la paix viendra. C'est de bon sens.
Jeanne, ta foi est si pure et si simple. Il est vrai que le peuple ne reconnaît le roi qu'en 2 choses. La naissance et le sacre. Pour la naissance, j'ai été déshérité par le traité de Troyes. Je ne serai donc vraiment roi qu'après avoir reçu le sacre. Soit. Et espérons que pendant le voyage, nous aurons la protection divine.
Dieu protégera le roi, son serviteur.
Charles VII prépare son départ pour Reims et mobilise 2000 soldats qu'il place sous le commandement du duc d'Alençon. Jeanne a connu d'Alençon à Chinon lors de sa première rencontre avec le roi. De sang royal,
d'Alençon a été prisonnier des Anglais et libéré contre rançon. Pour reprendre les villes occupées par les ennemis anglo-bourguignons qui sont sur le parcours, les capitaines de Charles VII, misant sur la victoire, rassemblent des troupes qu'ils rémunèrent sur leurs deniers. C'est donc fort de 7000 hommes que début juin, Jeanne et d'Alençon reprennent aux Anglais les villes de Jargeau, Main-sur-Loire et Beaugency. Ce 18 juin, poursuivant son avancée vers le nord, l'armée royale est dans la Beauce, non loin de la ville de Patay. C'est la nuit. Jeanne attend, postée sur une colline, son frère Pierre à ses côtés.
Impossible dans la nuit de distinguer où sont les lignes ennemies. Si on ne les repère pas avant le jour, on ne saura pas d'où ils vont attaquer. Ah, je suis tellement en colère contre d'Alençon. Je croyais que nous étions bons compagnons d'armes. Il ne veut pas me laisser diriger l'attaque. J'ai fait mes preuves, je suis chef de guerre.
Regarde cet arbre là-bas à l'orée du bois, Jeannette. Dans l'obscurité, on dirait l'arbre au fait de Dorémy.
Ah oui.
Surtout, il faudrait savoir où sont les archers anglais avec leur longbow. C'est ça qui t'a blessé. Un arc de 2 mètres taillé d'une seule pièce de bois. Tu dis rien. Oh, t'es en colère, toi.
Je n'ai rien vu. Il fait nuit noire. Ils sont 3500 à ce qui paraît, mais où sont-ils cachés?
D'Alençon, pourquoi as-tu donné le commandement à Laïr?
C'est notre meilleur capitaine. La victoire à Montargis il y a 2 ans, c'est lui qui dirigeait les opérations militaires.
Tu sais bien que je veux être en première ligne et mener l'assaut.
Jeanne, en matière de stratégie, c'est avec Laïr que je décide. Il a l'avant-garde et toi, tu poursuivras les Anglais à l'arrière-garde.
Il nous faudra de bons éperons.
Que dis-tu? Nous allons devoir fuir?
Non, pour leur courir après. C'est eux qui vont fuir.
Dunois dit que l'armée anglaise a... Dunois dit que l'armée anglaise a 5000 hommes. Hier, quand je galopais dans la plaine, j'ai vu leur convoi. Mais où est-il passé? On n'y voit rien.
L'aube est proche. Ils attaqueront bientôt.
Là! Là, regardez, le cerf qui détale. Il sort du bois. Ils sont là, dans ce bois. Oui, je les vois, il y a au moins 100 d'archers.
Laïr à cheval. Toi, Jeanne, attends ici, tu nous couvriras.
Laïr attaque frontalement, les Anglais sont défaits. La bataille de Patay est une victoire décisive. Le convoi royal peut poursuivre sa route. En Champagne, les villes tenues par l'alliance anglo-bourguignonne se rendent sans combattre. Le 10 juillet 1429, Charles VII fait son entrée à Reims. Le sacre a lieu 7 jours plus tard. Dans la cathédrale de Reims, entouré de quelques pairs de France, parmi lesquels Jean d'Alençon, Charles VII, agenouillé au pied de l'autel, reçoit l'onction sainte des mains de l'archevêque de Reims. Jeanne est à ses côtés, tenant son étendard où figurent le Christ et les mots « Jésus-Maria ». Derrière elle se tient sa famille venue de Don Rémy. Après le sacre, fondant en larmes, Jeanne tombe aux pieds du souverain.
Ô gentil roi,
maintenant est fait le plaisir de Dieu, qui voulait que je fisse lever le siège d'Orléans et que je vous amenasse en votre cité de Reims recevoir votre saint sacre, montrant que vous êtes vrai roi et qu'à vous doit appartenir le royaume de France. Le rituel du sacre rend à Charles VII sa légitimité sur le royaume. Après la cérémonie, il congédie l'armée et repart en direction de Bourges, capitale de son petit royaume. Mais parvenu aux rives de la Seine, les Anglais à nouveau bloquent le passage. Ce sont de longues heures d'attente et Jeanne s'impatiente.
Le roi n'a en tête que retourner tranquillement à Bourges et négocier une trêve avec les Bourguignons. Dieu me l'a dit, ma mission n'est pas terminée. Il ne cesse de me parler, il ordonne de reprendre Paris. Le gentil roi aura sa plus grande victoire. Paris est nôtre, c'est ce que dit la voix. Et nous voilà plantés au milieu des étangs quand il faudrait battre le fer tant qu'il est chaud.
Si tu savais comme je suis content d'avoir revu les parents, Jeanette. Le sacre les a drôlement impressionnés. Votre père était comme fou. Quand je pense qu'il m'avait dit « Si ta sœur veut partir, je t'ordonne de la noyer. »
Plaise à Dieu que je puisse maintenant laisser les armes et retrouver la maison de ma mère.
Qu'est-ce que tu dis? Tu veux rentrer à Don Rémy?
Pierrot, je suis venu de Lorraine pour libérer la France. Mais c'est Paris, le cœur du royaume. C'est là que nous devons aller et nous sommes ici à piétiner dans la boue. Non, j'abandonne.
Tu ne peux pas. Pas après tout ce que tu as fait.
Tu crois? Peut-être. Dieu compte sur moi. Il faut serrer les dents. Il m'aidera encore. Oui, j'aurai raison de l'ennemi au bout de ma lance.
Ne te crois pas invincible. Il n'est pas bon de ne plus craindre la guerre.
Je ne crains rien si ce n'est la trahison.
On rebrousse chemin.
Quoi?
On se dirige vers le Valois. C'est la route de Paris.
En août, sous un soleil écrasant, le convoi traverse la Picardie sans rencontrer aucune résistance. Mais Paris, qui a été prise par les Anglais il y a 9 ans, reste fidèle à l'alliance anglo-bourguignonne. Jeanne et d'Alençon, à la tête de l'armée, reprennent Saint-Denis, au lieu de la royauté, et le 8 septembre, ils lancent l'assaut sur Paris devant la porte Saint-Honoré. Des chariots apportent les échelles pour gravir l'enceinte, mais un large fossé défend l'accès aux remparts. C'est là que, vers 16h, Jeanne d'Arc est blessée d'un trait d'arbalète. L'armée royale bat en retraite. À mi-chemin entre Saint-Denis et Paris, elle gagne le village de la Chapelle, où est installée la garnison. Au milieu de la nuit, d'Alençon et Jeanne se retrouvent dans la petite chapelle.
Ah, j'ai la fièvre. J'étais sûre qu'ils se rendraient avant la nuit. Tout était prévu pour franchir le fossé, les fagots, les clés, mais il était trop profond, j'ai été piégée. C'était la 3e mission que le roi des cieux m'a ordonnée, libérer Paris. Et de tout mon pouvoir, je veux accomplir le commandement de notre Seigneur, mais j'ai failli. Ô roi des cieux, je suis indigne de ta confiance. Ô, parlez-moi, parlez encore, s'il pouvait me parler. Cette voix est si belle et douce et humble. Dieu m'a-t-il abandonné? Le salut de mon âme est-il perdu? Ah, j'ai mal. J'ai tellement mal.
Comment va ta blessure?
D'Alençon, tu m'as fait quitter de force le champ de bataille. Même blessée, je pouvais encore me battre. Je t'en veux, mais comme je t'en veux!
Je sais, mais d'un autre côté, je t'ai sauvé la vie, comme tu l'as fait pour moi à Pathé, quand tu m'as dit de reculer et que la pierre est tombée juste à l'endroit où j'étais.
J'ai promis à ta femme de te ramener sain et sauf, gentil duc. Combien d'hommes perdus?
50 d'Anglais. 500 de notre côté, dont notre porte-étendard. Une flèche entre les deux yeux. Ah, j'aurais préféré perdre 40 hommes plutôt que lui.
Il avait tant de bravoure au combat. D'Alençon, quelle défaite. Mais pourquoi? C'était le jour de la nativité, on ne doit pas combattre ce jour-là, peut-être que c'est ça.
Ou peut-être qu'ils étaient plus forts que nous. Il faut que tu manges. Tu ne diras pas non à quelques rôtis trempés dans du vin.
Aide-moi d'abord à retirer mon armure.
Bon gré de Dieu, j'y arrive pas. Oh, pardon, j'ai juré. Non, non, je n'ai rien dit. Ne te mets pas en colère.
Ah, la plaie s'est rouverte. Il faut refaire le bandage. Ma cuisse est toute en sang.
Jeanne, je t'ai vue nue tant de fois. Nous dormons ensemble chaque nuit. J'ai vu tes seins qui sont beaux et tes jambes, mais je n'ai jamais eu de désir charnel pour toi. Mon corps ne s'émeut pas. Avec toi, je ne pense plus aux femmes. Si tu te mariais, tu crois que les voix viendraient encore?
Je ne sais pas. Elles aiment ce que Dieu aime et haïssent ce que Dieu est.
Si Dieu t'aime, alors il hait les Anglais, tu crois?
Je n'en sais rien, ni ce que Dieu fait à leur âme. Ce que je sais, c'est qu'ils seront chassés. Ah, gentil duc, si on avait emporté Paris, à 7h, le royaume serait en paix.
On reviendra et l'on sera victorieux, Jeanne.
Qui sait si je serai encore là? Je durerai 1 an, pas plus.
Cette brève campagne de Paris aura de graves conséquences pour Jeanne d'Arc. Aux yeux de beaucoup, cette défaite est la preuve qu'elle n'a pas de protection divine. Jeanne rejoint le roi au château de Bourges. Comme pour signifier la fin de son service, il anoblit Jeanne et sa famille, précisant que la noblesse se transmettra exceptionnellement en lignée féminine. Il pourvoit Jeanne une fortune considérable, 12 000 livres. À l'hiver 1429, Jeanne habite chez Marguerite la Touroulde, dame d'honneur de la reine. Dans cette luxueuse maison, elles prennent chaque jour des bains, chacune installée dans une cuve en bois.
C'est la fin des victoires. L'armée est démobilisée. Dunois, La Hire, mes compagnons d'armes sont dispersés. D'Alençon est sur ses terres dans le Maine. À la cour, je me sens entourée d'hostilité. Le roi ne m'écoute plus. Il a prolongé la trêve avec les Bourguignons jusqu'à Pâques. Mais le royaume vit sous la menace des Anglais et tant que tout le territoire ne sera pas repris, il en sera ainsi. Mais je ne peux rien faire seule.
J'en connais des femmes qui entendent des voix. Mais toi, c'est différent. Le peuple te vénère.
Ce matin encore, une pauvre femme a toqué à la porte. Elle voulait que tu touches son chapelet.
Tu pouvais le toucher toi-même, Marguerite. Ton toucher vaut bien le mien.
Mais dis-moi, comment elles te parlent, les voix ?
Je vois ce que tu veux savoir. Eh bien, quand quelque chose ne va pas, si on ne veut pas me faire confiance et faire ce que Dieu me dit, je prie et une voix me dit « Fille, va, je viendrai à ton aide, va. » C'est une grande joie de l'entendre.
Je ne peux m'empêcher de penser, Dieu te commande vraiment de faire la guerre et verser le sang ? Moi, quand je veux servir le Seigneur, je lis les Écritures, je viens en aide à ceux qui en ont besoin.
Comme toi, j'aime Dieu et je le sers de tout mon cœur. Tout ce que j'ai fait, c'est par son commandement. Dieu agit à travers moi et sera mon seul juge. Je commence à avoir froid. Je vais me rhabiller.
Oh, la grande cicatrice que tu as sur la cuisse. Tu es vraiment une guerrière et tu n'as pas peur d'aller à l'assaut. Tu sais que Dieu est avec toi et que tu ne seras pas tuée.
Qui dit ça ? Je n'ai pas plus l'assurance de ne pas mourir qu'aucun autre combattant. Et j'ai été blessée 2 fois. Mais mon seul désir est de reprendre les armes.
Ce n'est pas pour demain. Je le sais car mon mari est trésorier du roi. Il n'a pas plus de 4 écus et on ne paye pas une armée à ce prix-là. Mais toi, tu as de la fortune, non ?
Pas assez pour monter une armée. Et puis, c'est mon frère qui a ma fortune. Moi, j'ai 7 chevaux. C'est ça, mon trésor.
Et ce bel habit rouge brodé d'or à la manière d'un chevalier. Il y a longtemps que tu as pris l'habit d'homme ?
Quand je suis partie à la guerre vivre avec des hommes d'armes. Il le fallait pour qu'on ne me fasse pas violence. Et ce que j'ai fait, je l'ai bien fait. Tu peux me croire.
Quand tu ris, on voit que tu es vraiment dans la grâce de Dieu.
Oh, je ne sais pas. Si j'y suis, que Dieu m'y tienne. Et si je n'y suis pas, que Dieu m'y mette. Mais je crois que si je n'y étais pas, sa voix ne me parlerait pas. Marguerite, je voudrais tant que chacun l'entende aussi bien que moi.
Sitôt la trêve terminée, après Pâques, les troupes du duc de Bourgogne, dans un plan concerté avec les Anglais, encerclent Compiègne. Jeanne d'Arc l'apprend. Elle prétend partir pour un petit voyage et à l'insu du roi, elle quitte la cour accompagnée de 200 mercenaires et de son frère Pierre. En chef de guerre indépendante, elle se rend à Compiègne et entre dans la ville la nuit du 14 mai. Avec le gouverneur Guillaume de Flavy, elle prépare rapidement une opération pour surprendre les troupes bourguignonnes. Ce 23 mai 1430, Jeanne sort de la ville à 4 heures de l'après-midi. L'effet de surprise fonctionne et l'ennemi bourguignon est repoussé. Mais les Anglais arrivent à la rescousse. Le gouverneur alors fait lever le pont-levis avant que Jeanne et Pierre aient pu le passer. Tous deux fuient au galop à travers les champs.
La semaine de Pâques, les voix me l'ont dit plusieurs fois. Je serai prise avant la Saint-Jean. J'ai demandé l'heure, elles ne l'ont pas dit. Est-ce que c'est l'heure ?
Pierrot, tâchons de passer la rivière.
Par là. Pourtant, ils nous poursuivent. Mais pourquoi Flavie a-t-il fait lever le pont ?
Il a fait ce qu'il fallait. Protéger les habitants, empêcher les Anglais d'entrer dans la ville. Mes hommes d'armes sont tous passés. C'est l'essentiel. Par ici, ils se rapprochent.
Non, pas par là. Les Anglais barrent le chemin.
Et prenons à travers champs jusqu'à ce bois là-bas. On est trop à découvert.
Par Dieu, on n'a plus beaucoup d'avance.
Je ne me rendrai pas.
Jeanne, si tu es prise, je me ferai prisonnier avec toi.
Jeanne est faite prisonnière et remise aux Bourguignons. Dunois et La Hire feront chacun une tentative pour la libérer. Charles VII, lui, n'interviendra pas. 3 jours après la capture de Jeanne d'Arc, les théologiens de Paris, ville anglo-bourguignonne, demandent au pape son procès en inquisition. L'enjeu pour les Anglais est de démontrer que Jeanne n'a pas de mission divine et que Dieu ne soutient pas les Français. Dans l'acte d'accusation, le roi d'Angleterre déclare qu'elle a enfreint la loi divine en s'habillant en homme et trompé le peuple en faisant croire qu'elle est envoyée par Dieu. Jeanne est emprisonnée non loin de Compiègne. Contre 10 000 livres, l'évêque de Beauvais obtient qu'elle soit remise aux Anglais. Elle est transférée au château de Beaurevoir, au nord de la Picardie. Ce 20 juillet 1429, Jeanne d'Arc apprend que l'Église a demandé son incarcération à Rouen, capitale de la domination anglaise où le roi d'Angleterre a sa résidence.
Rouen? Les Anglais vont me brûler. J'aimerais mieux être décapité 7 fois. Et cet évêque corrompu veut me faire un procès. Tout ce que j'ai fait, c'est Dieu qui l'a ordonné. Ils me disent hérétique. Alors l'Église contredit Dieu. L'évêque cochon est mon ennemi capital. Je crois que ça ira. Ces draps font une corde solide. Pas assez longue pour atteindre le sol, mais advienne que pourra. Je vais attendre le milieu de la nuit. Le geôlier dormira profondément. Ce sac à vin a essayé de me toucher les seins. Je l'ai repoussé de toutes mes forces. Si j'avais eu une arme... Comme je voudrais à cet instant entendre la voix qui disait « Fille, va, je viendrai à ton aide, va !» La première fois, j'avais 13 ans. C'était en été, à l'heure de midi, dans le jardin de mon père. Je l'ai entendu et j'ai eu peur de cela. Grand peur. Après, j'ai su que cette voix allait m'aider à me gouverner. Hélas, cette nuit, elle me suppliait de ne pas m'évader d'ici, de ne surtout pas sauter de ce donjon. J'ai répondu « Il le faut, je dois aller à Compiègne, la ville est à feu et à sang, on y tue même les enfants de 7 ans. » Et Sainte Catherine a répété « Non, ne t'évade pas, Dieu t'aidera et aidera aussi ceux de Compiègne. » Si Dieu aide ceux de Compiègne, je veux y être. Des voix, je n'ai requis d'autre récompense que le salut de mon âme, je dois poursuivre ma mission. Hélas, cette fois, je vais aller contre le commandement des voies. Je vais sauter de ce donjon, sortir sur le chemin de ronde et passer entre les créneaux. Jamais je ne serai aux mains des Anglais. Pour faire ce que j'ai fait, soit bien, soit mal, je n'ai été soumise par personne. Nul ne sera mon maître sur cette terre.
« 1429, Jeanne d'Arc, chef de guerre » de Christine Spianti, avec Jeanne d'Arc, Rose Millot, Pierre d'Arc, Benjamin Bure, Dunois, Régis Rommel, Lahire, Grégory Kidel, D'Alençon, Mathieu Rocher, Charles VII, Martin Campestre, Marguerite, Jade Labeste. Bruitage, Sophie Bissantz. Prise de son, montage et mixage, Julien Douminc et Valentin Azan-Zielinski. Assistante à la réalisation, Eleonora Farad. Réalisation, Sophie Haute-Picon. Vous écoutez « Autant n'importe l'histoire » sur France Inter, une émission réalisée par Audrey Ripouille, assistée de Frédéric Martin, à la technique, Djenab Sangaré. Valérie Toureille, nous avons donc suivi Jeanne d'Arc depuis sa victoire à Orléans, jusqu'au moment où, un an après, elle est faite prisonnière à Compiègne par les Bourguignons, puis livrée aux Anglais. Et donc, nous l'avons quittée quand le 20 juillet 1430, et non 1429, comme je l'ai dit, où elle est incarcérée au château de Beaurevoir et elle va tenter de s'évader par la fenêtre. Jeanne d'Arc est une prophétesse, on l'a entendu, une mystique qui dit que ses actes sont dictés par Dieu. Et en même temps, on l'a vu, c'est une femme très physique, une femme en mouvement, une femme courageuse qui fonce et qui galvanise ses troupes. Est-ce que c'est exceptionnel, une femme qui se bat au XVe siècle, qui fait la guerre?
Alors, on a d'autres exemples de femmes qui pourraient être qualifiées de femmes guerrières. Sans remonter jusqu'à Frédégonde et Bruno, on ne va pas faire la liste. Pour la fin du Moyen-Âge, on en a quand même un certain nombre. Mais pour autant, ce qui est singulier, c'est que Jeanne appartient au peuple et que les femmes de guerre ou des grands diplomates ou celles qui sont des stratèges appartiennent plutôt à la noblesse.
Quand même, on s'en est rendu compte, il faut qu'elle s'impose. Et à chaque fois, elle remet son titre en jeu. On ne croit pas qu'elle est envoyée par Dieu. Enfin, c'est ce qu'elle dit, en tout cas. Il faut toujours qu'elle le répète. Au départ, on ne la croit pas comme chef de guerre, on l'a entendu. Et elle va s'imposer progressivement. Les hommes qui l'accompagnent, Jean d'Alençon dira plus tard, sur le fait de la guerre, elle était très experte, tant dans le port de la lance que pour rassembler l'armée en ordre de bataille et pour préparer l'artillerie. Et de cela, tous s'émerveillaient qu'elle agissait de façon si prudente et avisée sur le fait de guerre, comme l'eût fait un capitaine qui l'aurait pratiqué 20 ou 30 années. Ça, c'est un beau compliment pour cette femme.
Alors, il y a de la fascination, sans doute, pour Jean, de Jean d'Alençon à l'égard de Jeanne. Mais c'est vrai que, bon, sans doute, embellit-il un petit peu les choses. On pense, on raconte qu'il lui a appris à chevaucher avec la lance, comme le font les chevaliers, ce qu'elle ne fera pas sur les champs de bataille. On ne se bat pas à la lance, là, dans les affrontements qui sont les siens.
Bah, elle porte quand même l'armure. Enfin, c'est pas rien, quand même.
C'est vrai.
Elle apprend vite.
Elle apprend à chevaucher aussi.
Mais alors, elle doit quand même montrer, prouver qu'elle est une vraie pucelle, c'est-à-dire une vraie vierge. Elle subit des tests de virginité, dirait-on aujourd'hui, par des matrones. Elle dort la nuit tout habillée avec la peur d'être violée, parce que c'est quand même quelque chose d'assez banal, j'imagine, dans ces armées encore aujourd'hui, donc a fortiori au XVe siècle.
Malheureusement, c'est une menace pour les femmes. Ses compagnons diront qu'elle dort dans les premiers moments où elle partage cette vie de camp avec son escorte. Elle dort tout habillée, le pourpoint et les chausses serrées. Donc elle se méfie bien sûr des hommes de guerre. Il faut se rappeler aussi la crainte de son père. Lorsqu'elle a sans doute parlé de cette mission à la maison et le père qui la menace de la noyer plutôt que de devenir une fille à soldat. Parce qu'il y a beaucoup de femmes aussi dans le monde des armées, mais pas dans la posture de
oui,
Jeanne.
Oui, c'est plutôt des prostituées. D'ailleurs, elle va les combattre.
Alors, il y a un peu de tout dans ces armées. Il faut bien reconnaître que ces armées médiévales sont très hétéroclites. Il y a aussi beaucoup de non-combattants, et dans ces non-combattants, des femmes. Il y a des épouses, il y a des concubines, il y a les lingères, il y a les cantinières. Voilà, Et Jeanne, bien sûr, occupe une position particulière. Cette aura... En fait, lors du procès de nullité, les témoins en parleront. Jean Dolon, Jean d'Alençon, Jean de Metz. On ne peut pas approcher Jeanne. Il y a quelque chose qui nous retenait de l'approcher et de la traiter comme une autre femme.
Est-ce que c'est cette dimension religieuse, oui, de prophétesse qui en impose à ces hommes?
Oui. C'est assez curieux pour nous, contemporains, d'imaginer ces rudes soldats, au moins intrigués, si ce n'est fascinés, par cette femme qui porte cette mission avec autant de conviction, avec cette détermination de rester pure. Parce qu'au Moyen-Âge, votre voix est pure, si votre corps l'est aussi.
Ouais, et être pure, c'est être pucelle, c'est être vierge.
Exactement.
D'accord. Et donc, elle est pucelle, elle est vierge, elle est pure pour les Français, enfin les combattants de Charles VII, mais pour les Anglais, c'est une sorcière, c'est une putain, ribaude.
Il y a une espèce de fascination-répulsion chez les Anglais. On le voit, ils cherchent à la salir par l'injure. Et en même temps, il y a une forme de peur-superstition chez eux. On sait qu'il y a eu des défections, des désertions dans l'armée anglaise.
Oui, les archers.
Et que Bedford, à un moment donné, s'énerve. Bedford, entre-temps, donc Henri V est mort et son frère donc, a pris la régence du Royaume de France. Bedford écrit au soi-disant roi de France, « Vous me faites la guerre de manière déloyale avec cette femme qui a des mœurs dissolues.
» Oui, d'accord. Et Charles VII, il est bon, évidemment, il a confiance en elle. Il va jusqu'à un certain point parce que il l'anoblit après le sacre à Reims, mais après il la laisse un peu tomber.
Alors déjà, il va prendre ses précautions. On ne peut pas lui en vouloir. Il va la soumettre à un examen. C'est pour ça qu'elle se rend à Poitiers, qu'elle est examinée par un parterre de prélats qui vont l'interroger sur la pureté de sa foi aussi, pas seulement la pureté de son corps. Donc, elle va subir une série d'examens avant qu'il ne l'accepte comme tel. Et finalement, oui, il lui donne cette autorité. Mais j'évoquais tout à l'heure la lettre de Bedford. Jeanne devient encombrante. Jeanne contrarie aussi, comment dirais-je, les lignes de la diplomatie qui sont, à ses yeux, plus importantes.
Oui, et puis après la défaite de Paris, on se rend compte que Dieu n'est plus avec elle.
Déjà, Charles VII ne voulait pas vraiment l'accompagner dans cette expédition qui, on peut le dire, était quand même perdue d'avance.
Bon, après, elle va être, on le sait, capturée par les Bourguignons, vendue aux Anglais, jugée, elle sera condamnée à mort, brûlée vive à Rouen le 30 mai 1431. Quel a été le rôle historique de Jeanne d'Arc dans l'histoire de France, finalement? Est-ce qu'elle a vraiment sauvé la France? sauver Charles VII ?
Une vaste question.
Oui, en quelques secondes. Une tourelle.
Elle incarne une forme de résistance populaire que l'on a longtemps méconnue dans notre histoire. À côté de Jeanne, il y a des gens qui ont vécu dans des sortes de maquis, je pense en particulier à la Normandie, qui pendant plusieurs décennies a subi l'occupation anglaise, des gens qui ont vécu dans le dénuement, dans la forêt, et qui participent de ce même mouvement qu'on pourrait appeler un mouvement de résistance.
Merci Valérie Toureil. Je conseille vivement la lecture de votre biographie qui se lit comme un roman, Jeanne d'Arc, édité chez Perrin en 2020, à lire également les grands classiques, Jeanne d'Arc de Colette Beaune chez Talendier et de Claude Gauvard, Jeanne d'Arc, héroïne diffamée et martyr chez Gallimard. Voilà, c'est la fin d'Autant n'importe l'histoire. Vous pouvez réécouter cette émission, la podcaster sur notre site radiofrance.fr où j'attends avec plaisir vos commentaires ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Samedi prochain, nous partirons en Russie en 1917 à Tsarskoye Selo où vit la famille du tsar Nicolas II, à l'écart du monde. La famille va cependant être rattrapée par une réalité qu'elle n'a pas vue venir. La révolution qui va bientôt tout emporter du monde d'avant et où elle trouvera la mort. 1917-1918, la fin des Romanov, c'est samedi prochain à 15h sur France Inter.